Portrait présenté par Melika Laffaire.
Ce soir, je suis tout particulièrement ravie de recevoir M. Francis Janson, une grande figure de l'histoire, notre histoire, la lutte de libération nationale. M. Francis Janson, vous avez fait des études supérieures de philosophie et vous avez obtenu votre doctorat de sciences politiques. Évadé de France en 1943, vous rejoignez les forces françaises libres en Afrique du Nord. De 1950 à 1955, vous créez et dirigez la collection « Écrivains de toujours » aux éditions du Seuil et gérez la revue « Les temps modernes ». De 1956 à 1961, vous créez et dirigez un réseau de soutien à la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Ensuite, vous dirigez la collection « Les temps modernes » avec Jean-Paul Sartre jusqu'en 1965. Vous animez depuis de nombreuses activités culturelles, séminaires, stages, notamment dans le domaine psychiatrique. Vous publiez jusqu'à ce jour une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels « Montaigne par lui-même » en 1951, « Sartre par lui-même » en 1955, L'Algérie hors la loi en 1955, Notre guerre en 1960, La révolution algérienne en 1962, L'action culturelle dans la cité en 1973, La psychiatrie au tournant en 1987, Algérie de retour en retour en 1991. Monsieur Francis Janson, bonsoir et merci d'être venu.
Bonsoir, c'est moi qui devrais dire que vous me faites l'honneur de m'accueillir sur la chaîne 3. Et je vous en remercie, j'y suis très sensible.
Monsieur Francis Janson, ce soir, on va parler de l'histoire. On va parler de l'histoire. Il y a eu le réseau Janson que beaucoup de jeunes Algériens ne connaissent pas. Alors ce soir, bien sûr, en très peu de temps, puisque nous avons seulement une heure, nous avons essayé de parler de ce réseau Janson. Alors, vous, si vous voulez bien, vous allez nous parler un petit peu de la première fois où vous êtes venu en Algérie, vous êtes venu donc en Algérie dans des conditions difficiles. Racontez-nous.
C'est-à-dire, j'y suis venu une première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943. Je venais de quitter la France en traversant l'Espagne, c'est-à-dire en restant pendant 6 mois dans un camp espagnol. Et je suis arrivé dans une Afrique du Nord, dans un Maghreb qui était largement marqué par la guerre et par la lutte, tout particulièrement en Algérie, la lutte entre deux tendances, deux armées, si je puis dire, l'armée Giraud et l'armée de Gaulle. Et de sorte que pour moi, la réalité proprement algérienne a été recouverte par ce conflit franco-français. Donc, je ne peux pas dire que j'ai pris conscience de quoi que ce soit concernant cette réalité algérienne en 1943. Et puis, je suis revenu en Algérie en 1948. Et les conditions dans lesquelles j'y suis revenu, je ne sais pas si c'est important de le dire. C'est-à-dire que je devais avoir un poste au Liban. Et à ce moment-là, ma belle-mère, je venais juste me marier, ma belle-mère est tombée gravement malade. Et ma femme et moi, nous avons jugé qu'il ne fallait pas partir trop loin, parce qu'on risquait d'avoir à revenir n'importe quand. Alors quand même, on voulait quitter la France pendant quelque temps, on est allé à Alger. Mais je n'avais aucun moyen d'existence prévu, donc j'ai été amené à faire des petits boulots, comme on dit. Et j'ai donné des leçons particulières, j'ai fait des émissions à la radio, y compris sur la musique, ce qui est tout à fait inimaginable quand on sait à quel point je suis peu compétent. J'ai fait un feuilleton dans le journal du soir d'Alger sur l'existentialisme, ça doit faire 25 numéros à la suite. Et bref, nous avons survécu, quoi. Mais ça m'a permis surtout de rencontrer beaucoup de gens et de rencontrer un certain nombre de nationalistes. Dans un premier temps, ce fut surtout des nationalistes de la tendance UDMA, Ferhat Abbas. Bon. Et par la suite, j'ai rencontré aussi des nationalistes de la tendance MTLD. Et quand je suis revenu sur Paris, j'avais déjà quelques idées de la situation et en particulier de ce qui avait pu fermenter en Algérie, au fin fond du peuple algérien, à partir des massacres du Constantinois en mai 45. Ces massacres du Constantinois, en France, on en avait fort peu parlé, fort peu, de sorte que je n'étais pas tellement au courant. Mais là, j'ai appris bien des choses. Et puis, je me suis mis à travailler la question, à rechercher des documents ensuite, retour en France. Et puis, il se trouve que quelques mois plus tard, on m'a demandé d'aller faire une tournée de conférences sur le théâtre de Sartre, dans plusieurs villes algériennes. Et là, j'ai été reçu un peu comme un personnage officiel. C'était plus du tout sur le même plan, bien sûr. Et j'ai été accueilli sans aucune méfiance par des milieux de la grande colonisation. Et alors, à ma grande stupeur, les conversations de ces personnes devant moi, qui ne se méfiaient nullement de moi, les conversations de ces personnes non seulement recoupaient tout ce qu'avaient pu me dire les nationalistes, mais dépassaient même en gravité ce que les nationalistes pensaient sur l'attitude de ces personnes. Je veux dire qu'en fait, elle m'est apparue, cette attitude, beaucoup plus cynique encore que les nationalistes ne le pensaient. Bon.
C'était un milieu intellectuel ?
Intellectuel, ce serait peut-être beaucoup dire. Enfin, c'était surtout des gens qui se préoccupaient de faire en sorte que les Arabes ne deviennent jamais des intellectuels. Ça, alors, l'Arabe était quelqu'un à qui il ne fallait surtout pas apprendre à lire. Bon. Je veux dire que j'ai été reçu de façon somptueuse, presque inquiétante. Et ça m'a même permis de me rendre compte de la façon dont un gouverneur général fraîchement débarqué à Alger pouvait être enveloppé dans les trois semaines qui suivaient. Parce qu'ils étaient très très bien organisés pour ça. Alors, ce fait que l'expérience de ma tournée de conférence m'a mené à recouper très bien, plus que recouper, les propos des nationalistes, ça m'a donné envie d'écrire des articles. Mais il faut bien dire que c'est allé très loin, ce que j'avais entendu. Je voudrais encore vous donner un exemple. Le sous-préfet de Guelma m'avait accompagné un jour dans sa ville et il me faisait visiter, quoi. Et tout d'un coup, sur une place, au fond de la place, de loin, il me montre quelque chose, je ne comprenais pas très bien ce que c'était, une espèce de tertre, de tumulus, on ne savait pas. Et il me dit, « Ah, vous savez, en mai 45, hein, ils nous ont fait du mal, mais on le leur a bien rendu. » Et on les a eus, Monsieur Janson. Il me dit, « On les a eus, 1000 pour 1, Monsieur Janson. » Voilà. Il était ravi parce qu'il y avait eu des milliers de victimes algériennes. Bon. Tout ça...
Monsieur Janson, pour vous, il y a eu 45 000 morts. Ce n'est pas un chiffre exagéré.
Non, je ne dis pas 45 000 morts. Je dis que le chiffre, en tout cas, que l'on peut certifier, le minimum que l'on peut certifier s'établit aux environs de 15 000. Pour le reste, ça... Et puis, je vous dirais que ce genre de comptabilité, moi, ne me passionne pas. Je veux dire, 15 000, ça me paraît déjà suffisamment grave. Bon, qu'il y en ait 15 000 ou 45 000, à la limite, je dirais, le crime est rigoureusement le même. Bon. Alors, j'ai donc écrit au retour à Paris, j'ai écrit deux longs articles dans la revue Esprit. Et puis, j'ai repris mes activités habituelles. Mais la lutte a commencé en Algérie...
Excusez-moi, lorsque vous avez écrit vos deux articles sur la revue, dans les journaux, revue Esprit, est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous n'avez pas eu du mal à publier ces articles?
Non, je n'ai eu aucun mal à publier ces articles à ce moment-là. Le directeur de la revue Esprit était Emmanuel Mounier. Et ce n'était pas l'homme à faire barrage sur un point de cet ordre. En revanche, j'ai eu des difficultés en 1955, alors, à faire publier par mon éditeur habituel, chez qui en outre je travaillais puisque j'y dirigeais une collection, j'ai eu une difficulté à faire publier L'Algérie hors la loi.
Dans ce livre, L'Algérie hors la loi, qu'avez-vous dénoncé ?
Ah, j'ai dénoncé l'ensemble de la situation, celle que je dénonçais déjà en 1950, mais à ce moment-là, je pouvais simplement dire, après l'avoir analysée, je pouvais simplement dire qu'à mon avis, elle était explosive et qu'elle exploserait nécessairement. Mais je ne savais pas quand. Seulement, quand j'ai écrit le livre, la situation était différente. La lutte était engagée depuis déjà novembre 1954.
On disait que les Algériens étaient montés déjà au maquis dans les années 50. Est-ce que cette information vous est arrivée? Vous êtes parvenu? Est-ce que c'est après cette information que vous avez senti que les choses allaient éclater?
Il me paraissait évident à travers les propos que j'entendais, et si vous voulez à les lire entre les lignes, si je puis dire, bon, il me semblait évident que la lutte se préparait effectivement, qu'il y avait une organisation au travail, et ce n'était pas du tout... une idée en l'air, comme ça, quand j'ai dit que ça allait exploser. C'est parce que je pensais que toutes les conditions étaient en train de se réunir pour ça.
Donc, votre livre, L'Algérie hors la loi, c'était aussi une prise de conscience, de pas beaucoup, mais de quand même un certain nombre de personnes. Je parle des Français.
Oui. Bon, c'est vrai que, dans l'ensemble, ma femme, c'est ma première femme, était... a écrit le livre avec moi, nous étions assez isolés. Hein. Oui, nous avions peu de relations avec de relations satisfaisantes avec les milieux de gauche qui étaient beaucoup plus naturellement nos milieux d'élection, quoi. Et c'est vrai, nous étions assez isolés, mais je dois dire que nous n'avons jamais souffert pour une raison simple, c'est que très rapidement, les Algériens que nous avions rencontrés en 48-49 sont venus à Paris. Un bon nombre d'entre eux sont venus à Paris et nous ont contactés tout de suite. Et ils nous ont demandé des services. Le premier de tous les services, ça a été de les piloter à travers Paris, parce que dès qu'un Algérien était au volant d'une voiture, sur le faciès, comme ça, hein, il était arrêté au premier carrefour et on lui demandait ses papiers, on soumettait un contrôle. Bon, alors il fallait... Moi, j'ai fait le chauffeur de taxi quoi, pendant des mois, comme ça. Et tout en faisant le chauffeur de taxi, je découvrais peu à peu les besoins, à mesure qu'ils les découvraient eux-mêmes, les besoins qu'ils avaient pour poursuivre leur travail politique, puisque dans les premières années, il s'agissait de rencontrer des milieux français, de les convaincre de la justesse de la lutte. Et puis par la suite, il s'agissait d'une lutte plus profonde, plus vive. Mais bon, je me suis rendu compte qu'il leur fallait... des hébergements, il leur fallait des lieux de réunion, il leur fallait, et puis peu à peu, il leur a fallu des passages de frontières, des faux papiers, des prête-noms, etc. Mais, si vous voulez, tout ça, mes amis et moi, dans ce qu'on a appelé le réseau Janson, mes amis et moi, nous avions en charge exclusivement les responsables de la Fédération de France du FLN, c'est-à-dire le comité fédéral. C'est-à-dire, nous leur fournissions un soutien à leur demande en fonction des besoins qui étaient les leurs. Alors qu'il y a eu, évidemment, d'autres groupes de Français qui ont travaillé avec des responsables régionaux, locaux, ailleurs en France. Et bon, nous n'étions pas les seuls, mais notre spécificité, c'était d'avoir pris en charge les besoins du comité fédéral de la Fédération de France. Et puis ça a donc duré, si vous voulez, de 55 au début 57. Et puis il a fallu, à un moment donné, travailler différemment. Il faut que je vous explique que pendant ces deux premières années, 55 et 56, J'étais connu pour être un intellectuel partisan d'une chose impensable à l'époque, enfin l'indépendance algérienne. Je faisais ici ou là des conférences là-dessus. Bon. Et je me disais que c'était une couverture parfaite parce que je pensais que la police ne pouvait pas imaginer qu'un intellectuel qui s'exprimait publiquement comme ça pouvait avoir une action clandestine par ailleurs. Donc, si vous voulez, je n'éprouvais pas le besoin d'être moi-même clandestin. Et puis, lors d'un changement de responsable à la tête de la Fédération de France, eh bien, je me suis entendu dire que ce n'était pas très sérieux, qu'il fallait quand même que j'entre vraiment totalement en clandestinité, ce que j'ai fait immédiatement. Et ça, c'était en juillet 1957, et quand, en effet, le nouveau responsable de la Fédération m'a dit « Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu tiens entre tes mains? Tu as trop de choses, tu as toutes nos adresses, tu as tous nos moyens de fonctionnement, de rencontres, de passages, etc. » Bon. Et y compris la collecte de l'argent et tout ce qu'on voudra. Alors, il me dit « il faut en finir avec ça, il faut distribuer tes moyens d'action là entre différents responsables algériens. Il faut que les Français de ton groupe se mettent à travailler les uns avec un tel, les autres avec un autre, etc. » Et j'ai dit « je regrette, mais je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Parce que nous sommes peut-être mieux équipés pour poser des problèmes de sécurité en restant une organisation assez unie. Et puis, peut-être qu'en tant que Français, nous sommes plus à même de savoir quelles sont les limites dans lesquelles nous pouvons fonctionner, au point de vue sécurité toujours. » Et il y avait un deuxième aspect qui m'importait beaucoup et que je lui ai expliqué aussi. Et ça, je dois dire que ça l'a convaincu. C'est que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un groupe français qui soit, en tant que tel, en tant que groupe français, aux côtés des Algériens, pour les aider dans leur lutte pour l'indépendance. Donc il m'a accordé ça, mais évidemment, la condition, c'était que je constitue un véritable réseau avec toutes les règles de sécurité et les modalités de fonctionnement qui sont de rigueur en PARICA, ce que j'ai fait. Et en effet, je crois que le moment était venu, d'autant que de plus en plus, nous recrutions des gens que je ne connaissais pas, bien sûr. Donc c'était les différents responsables de tel ou tel secteur d'activité qui recrutaient des gens et qui devaient à leur tour prendre des mesures de sécurité. Bon. Donc, à partir de là, le réseau existait. Donc, disons, octobre 57.
Hier, au cours de votre conférence de presse, vous parlez de sécurité des camarades algériens, mais vous aussi, vous risquiez la prison et peut-être la torture, non ?
Non, nous n'avons jamais pensé que nous risquions la torture. Mais justement, nous risquions la prison, disons. Bon. Mais notre grande inquiétude, c'était de commettre une erreur, une maladresse quelconque, qui permettrait l'arrestation d'un de nos camarades algériens. Et alors là, nous savions que lui, dans ce cas-là, il risquait la torture. Donc à tout moment, nous étions un peu angoissés à l'idée des erreurs que nous risquions de commettre, parce que nous savions qu'il y avait là quelques hommes pour qui le risque était pratiquement total.
Pardonnez-moi d'insister, mais le réseau Janson avait aussi pour tâche de transporter les armes, l'argent. Ce n'était pas aussi grave pour le réseau Janson s'il devait être, je ne sais pas,
attrapé par, par la police.
Oui, mais je pense qu'en tant que citoyen français, parce que je ne considère pas que les Algériens étaient des citoyens français, on avait largement prouvé que on ne leur permettait pas de l'être, malgré les étiquettes. Mais en tant que citoyens français, nous ne risquions pas vraiment que ça aille aussi loin. Ah, nous risquions, oui, de condamnation, oui, bien sûr. Vous savez, transporter des armes ou transporter de l'argent, au total, le problème est le même. Hein, quand on aide des hommes qui sont en lutte et qui se servent d'armes à l'occasion, bien, quand on transporte soi-même des armes ou pas, ça revient strictement au même.
Vous étiez bien sûr en contact permanent avec la Fédération de France, mais c'était complètement autonome, c'est-à-dire la Fédération de France faisait son travail et vous le vôtre.
C'est-à-dire nous faisions notre travail, mais comme notre travail était de leur fournir les moyens dont ils avaient besoin, on ne peut pas dire que nous étions vraiment coupés. Non, nous faisions ce qu'ils jugeaient utile. Ils nous demandaient, au fur et à mesure de leurs besoins, ils nous demandaient ceci ou cela. C'était possible ou ça ne l'était pas, mais en général, on s'arrangeait pour que ce soit possible.
Est-ce que vous pouviez aujourd'hui nous parler du nombre de personnes dans ce réseau?
C'est très difficile. Je vais vous dire pourquoi c'est très difficile. D'abord, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas avoir une véritable comptabilité. Il y avait quand même des structures qui faisaient que ça se passait à plusieurs niveaux et qu'au dernier niveau, on ne savait pas très bien, on ne savait jamais tout à fait. Mais il y a surtout que c'est pas la même chose si on comptabilise. À supposer qu'on puisse quand même avoir quelques chiffres à peu près crédibles, si on comptabilise les gens qui hébergeaient ou servaient de lieux de réunion, des choses comme ça, et si on comptabilise ceux qui, par exemple, perdaient leur carte d'identité sous notre demande, c'est-à-dire nous la donnaient et faisaient une déclaration de perte. Bon, je ne sais pas combien de cartes d'identité belges nous avons pu avoir grâce à ça. Les Belges perdaient souvent leur carte d'identité à l'époque. Et bon, si on comptabilise ça, ça fait beaucoup. Mais je dirais, risquons un chiffre, je dirais qu'en gros, parmi les gens qui ont vraiment fonctionné sous des formes plus directement présentes, peut-être il y avait 300 personnes, je ne sais pas. C'est peut-être de cet ordre.
Monsieur Francis Janson, l'axe principal était donc le soutien. Et que pensiez-vous lorsque la Fédération de France est passée à l'axe, c'est-à-dire faire des attentats au niveau de la France? Est-ce que vous soutenez ça?
Oui, alors je vais vous dire non. Je vous expliquerai comment ça s'est passé pour moi. Mais peut-être vous me comprendrez mieux si je reviens sur la question précédente. En vous disant que le chiffre que je vous ai donné est à mes yeux parfaitement dérisoire, parce que je n'ai pas cessé de me rendre compte à l'époque qu'il y avait des quantités de gens qui étaient prêts à nous aider, qui étaient prêts à fonctionner de la manière dont nous fonctionnions. Seulement, ils n'arrivaient pas à nous joindre. Et au fond, c'est nous qui allions vers eux et qui demandions à telle personne ou à telle autre si elle voulait bien participer. Mais le fait est que nous n'avons jamais eu de difficultés à cet égard. Et je disais que si nous avions pu passer des petites annonces dans la presse, nous aurions eu infiniment plus de monde, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de Français qui étaient d'accord pour une aide de cet ordre. De plus en plus, il y en a eu au fur et à mesure que la guerre se déroulait. Bon. Alors, si vous voulez, quand il est apparu que du côté algérien, il y avait une pression qui s'exerçait sur la Fédération de France pour passer à une phase d'attentat contre les personnes en France. Je ne dis pas contre telle ou telle personne, mais contre les personnes en général. C'est vrai que là, j'ai indiqué pour ma part que je trouvais ça tout à fait regrettable pour deux raisons. D'abord parce que je pensais que si même ça permettait d'obtenir des succès, peut-être, en termes de victimes abattues. Enfin bon, du côté algérien, ça permettait d'obtenir des succès, oui, si c'était ça qu'on voulait. Ça se solderait très rapidement par un échec immense, parce que quelques jours après, ce serait la chasse aux lapins à travers tout l'Hexagone. Ce serait vraiment... Et qu'il n'y aurait plus d'Algériens survivants d'une semaine ou deux, quoi.
C'est ce qui s'est passé, monsieur Francis Janson, puisqu'il y a eu des attentats. La Fédération de France s'est passée à l'acte, non?
Non, il n'y a pas eu d'attentats contre les personnes en général. Il y a eu des attentats très personnalisés, si je puis dire. Bon, et il y a eu des attentats contre des matériels, contre des objectifs matériels. Non, il n'y a pas eu ce genre d'attentat qui consiste à atteindre les uns ou les autres, n'importe, au hasard, rien que pour montrer que l'insécurité règne et que la lutte algérienne est présente au cœur même de la France. Non, c'était ça qui était souhaitable, peut-être, d'un certain point de vue. Mais, je dis, ça aurait coûté trop cher pour les Algériens sur le moment même, enfin, au bout de peu de temps. Et d'autre part, je pense que ça aurait coûté très très cher pour la suite. Ça, moi, je n'ai pas cessé d'avoir comme souci, en m'engageant dans ce soutien, d'avoir comme souci celui de faire en sorte qu'il y ait des liens ultérieurement entre les deux populations. Que les Algériens ne puissent pas se dire un jour que la France tout entière avait été ce que représentait la politique officielle française. Bon, ça m'importait beaucoup. Je disais, si nous voulons sauvegarder l'avenir des relations entre les deux pays, entre les deux populations, il faut vraiment qu'on évite ce genre de d'action limite, parce que là, il y aurait une espèce de situation inexpiable. D'une certaine façon, il y aurait une haine, alors que ça n'a pas du tout été le cas par la suite.
Monsieur Francis Janson, quelle était l'attitude du Parti communiste vis-à-vis de la colonisation et de la guerre aussi en Algérie?
D'abord, l'attitude du Parti communiste, moi, m'a gêné sur un point précis. C'est que quand des militants du Parti manifestaient l'intention de travailler avec nous, bon... C'était normal, en tant que militant d'un parti organisé, ils en référaient à leurs organismes de cellules ou de sections. Bon. Et invariablement, ils se faisaient semoncer et on leur interdisait de faire ce travail avec nous. Et il y a même eu des sanctions, parfois assez graves, et qui ont fait du mal aux gens. Enfin, ça a été très pénible, il y a des militants qui ont beaucoup souffert de ça. Alors, si vous voulez, au bout d'un certain temps, je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, et j'ai voulu essayer de rencontrer les responsables du Parti communiste. Et j'ai pu, en effet, pendant 2 mois à peu près, rencontrer, à raison d'une rencontre par semaine et dans des conditions de sécurité très très bien définies, j'ai pu rencontrer un membre du bureau politique du parti. Ça a été Laurent Casanova pendant, je sais pas, 6, 7 ou 8 fois. Et puis, la dernière fois, ça a été Valdec Rocher. Et en général, ça se passait de la façon suivante. On se rencontrait, bon, et Laurent Casanova, par exemple, me disait, bon, alors, aux Algériens, ils ont encore fait ceci ou cela. Alors, je disais, attention... Replaçons les choses dans le contexte, voilà ce qui s'est réellement produit. Et je vous rappelle que ce qui a été dit par Pierre Courtade, par exemple, dans le dernier édito de l'Humanité, ben, c'est faux. Non. Alors, c'est tout de même dommage que le Parti communiste propage des rumeurs comme ça, des choses. Et on discutait là-dessus. Et puis, au bout d'un certain temps, il me disait, oui, mais vous savez bien, enfin, vous connaissez la situation, vous savez bien que la classe ouvrière est raciste, colonialiste, impérialiste. Alors, nous sommes bien obligés d'en tenir compte. Et je lui disais, oui, mais c'est dommage que vous n'en ayez pas tenu compte avant, parce que peut-être elle n'en serait pas là où elle est. Enfin, bon, on discutait comme ça. Bon. Mais en effet, pendant quelques jours, ça s'apaisait, les éditos étaient différents. Bon, et puis ça recommençait. Alors on se revoyait. Puis, bon, mais au total, enfin, quand la dernière fois, j'ai compris que ce n'était pas la peine d'insister, que bon, ça s'en tiendrait là. Et, bon, j'ai renoncé parce que en plus, bon, c'était pas facile pour moi de faire ce genre de va-et-vient. Bon, mais enfin non, voilà, ça a été ça. Et personnellement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de militants communistes étaient en train de découvrir avec une stupeur, mais une stupeur consternée, enfin, que le Parti communiste n'était pas un parti internationaliste comme il se prétendait et n'était pas un parti anticolonialiste. Bon. Alors bon, ben moi j'y pouvais rien. Hein. Mais enfin, ce que je souhaitais aussi, c'était quand même que, dans une certaine mesure, il soit peut-être plus coulant à l'égard de ceux des militants qui souhaitaient faire plus que lutter pour la paix.
Donc, Monsieur Francis Janson, vous faisiez partie d'aucun parti, c'est ce que...
Je n'ai jamais appartenu à un parti quelconque. Et le problème aurait pu se poser pour moi concernant le Parti communiste. Et là, je n'ai pas voulu y entrer pour n'avoir pas à en sortir. Parce que j'avais trop vu de cas de gens qui sortaient du Parti communiste et qui en sortaient dans un mauvais état et en devenant haineux par rapport au Parti communiste. Et ça, je n'avais pas du tout envie que ça m'arrive.
Seulement au Parti communiste ou alors même aux autres partis ?
Vous savez, les autres partis, je n'ai jamais ensuite eu l'idée d'adhérer à quelconque parti, parce que, si vous voulez, il faut choisir. Hein. Je crois, ou bien on est un intellectuel, comme, bon, si je peux employer ce terme, on est un intellectuel, et ça veut dire qu'on doit penser aussi librement que possible, et ça veut dire qu'on ne peut pas s'engager à respecter strictement la doctrine et l'idéologie d'un parti. C'est pas possible, c'est pas compatible. À mon avis, hein. Bon, c'est peut-être parce que je considère le rôle de l'intellectuel de façon excessivement exigeante. Je ne sais pas, mais enfin, bon, pour moi, c'était impossible, c'était incompatible.
Monsieur Francis Janson, nous allons revenir au réseau Janson. Et combien d'années a-t-il vécu et...
Alors, le réseau a existé jusqu'en 61. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai cessé de le diriger personnellement à partir de 1960, c'est-à-dire après les arrestations. Il y a eu un ensemble d'arrestations. En fin février 60, une arrestation de quelques militants algériens et la police a remonté jusqu'à une douzaine de membres du réseau, ce qui n'a pas du tout démantelé le réseau lui-même. Nous avions d'une manière générale constamment 400 millions de cotisations qui transitait par nous, et la police a saisi uniquement 12 millions à ce moment-là, parce que c'était un fonds de roulement qui existait quelque part. Mais c'est tout. Aucune des structures essentielles, passage de frontières, où nous avions des quantités de filières de passage comme ça aux différentes frontières, rien n'a été touché. Mais, pour des raisons de sécurité, comme j'avais échappé de justesse à l'arrestation, je me suis mis sur la touche et simplement j'ai pu, en avril 60, faire une conférence de presse clandestine où il y avait pas mal de journalistes étrangers et deux journalistes français. Et où j'ai expliqué que bon, le réseau, contrairement à ce qu'avait annoncé la police, n'était nullement démantelé. Je crois d'ailleurs que ce n'était pas tellement la faute de la police, parce que le pouvoir politique à ce moment-là avait exigé d'elle qu'elle obtienne des résultats très vite. Alors que si la police avait pu attendre plusieurs mois, peut-être qu'elle aurait pu obtenir de meilleurs résultats. Mais là, vraiment, c'était plutôt raté. Et ce qui était raté pour eux a été une espèce de chance pour nous, d'une certaine manière, parce que ça a permis de faire un procès. un procès qui, lui, a été une audience absolument extraordinaire dans le pays et qui a bien montré que la politique française en Algérie avait du plomb dans l'aile, qu'elle était difficilement soutenable. Mais c'est vrai que cette conférence de presse que j'ai pu donner, où j'ai montré d'ailleurs qu'il y avait des déserteurs, il y avait des insoumis, qu'il y avait une organisation qui s'occupait d'eux, ou que le réseau n'était pas démantelé, etc. Cette conférence de presse a été relatée par Georges Arnaud dans Paris Presse, précédée d'un article infâme du directeur de Paris Presse, mais enfin, il l'avait publié, quoi. Il a publié, Georges Arnaud a été arrêté parce qu'il ne voulait pas dire où ça avait eu lieu. Bon. Mais ça a commencé à renseigner l'opinion sur le fait que ça existait vraiment. Cela étant, nous avions déjà essayé de renseigner l'opinion parce que moi, je voulais en effet qu'on sache qu'il y avait un soutien français à la lutte algérienne pour l'indépendance. Et je m'étais dit, il faut arriver à publier notre clandestinité. C'est un peu contradictoire, mais... Et j'avais donc créé un bulletin qui s'appelait Vérité pour, et qui a eu 15 ou 16 numéros, et que nous diffusions à raison de 5000 exemplaires chaque numéro, en l'expédiant toujours dans des villes différentes pour qu'on ne risque pas de remonter à la source. Mais ça, je crois que ça a été aussi un élément pour contribuer à la création d'une opinion publique un peu valable sur l'affaire algérienne. Oui, nous avions à nous préoccuper beaucoup, nous qui étions engagés dans le soutien, du problème des jeunes qui refusaient de partir en Algérie. Et ils étaient quand même de plus en plus nombreux. Il y avait ceux qui s'insoumettaient, et puis il y avait aussi ceux qui désertaient tranquillement, franchement, quoi. Et il fallait les aider, eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ils étaient dans une situation extraordinairement précaire. Alors, nous avons aussi fonctionné dans ce domaine-là, c'est-à-dire nous avons soutenu, favorisé la constitution de l'organisation JR, qui était une organisation tout à fait indépendante de gens qui s'occupaient expressément de ça. Et nous avons favorisé la création de cette association et nous l'avons soutenue aussi.
JR, ça veut dire jeune...
Jeune résistant. Voilà, jeune D'accord. résistant.
Nous sommes donc en 1962. Avez-vous assisté à la fête de l'indépendance? Si vos visites étaient fréquentes, ou si vous avez eu aussi envie de venir séjourner en Algérie pour voir une Algérie indépendante, vous qui l'avez tant soutenue, et si les Algériens vous ont aussi proposé de venir et de vous y installer. Alors, toutes ces questions.
Oui, je ne suis pas allé en Algérie en 62. En juillet 62, j'ai fait une chose, c'est-à-dire je me suis amnistié. Bon, c'est-à-dire j'ai repris mes vrais papiers et j'ai circulé comme tout le monde, sans me soucier de rien. Parce que
Pardon, quelle était la position du gouvernement français par rapport à vous qui étiez en clandestinité
Mais j'étais condamné par contumace, puisqu'il n'avait pas réussi à m'arrêter, mais il m'avait condamné au cours du procès. J'étais condamné par contumace à 10 ans de prison. Ça devait être 7,5 millions d'amende et puis privation des droits civiques. Voilà, c'est ça. Bon, mais leur problème, c'est que s'ils m'arrêtaient, ils étaient obligés de refaire le procès. On appelle ça purger la contumace. Et ils n'avaient évidemment pas envie de refaire le procès. D'ailleurs, il se trouve qu'ils m'ont arrêté par mégarde à 3 reprises, mais déjà 3 ans plus tard, encore en 1965. Et ils étaient paniqués chaque fois parce qu'il ne fallait pas surtout avoir à refaire le procès. Donc, dès qu'ils étaient avertis qu'on m'avait arrêté quelque part, ils disaient « libérez-le vite ». Et finalement, ils m'ont muni d'une mise en liberté provisoire en attendant que l'amnistie, qui a eu lieu en 1966, soit intervenue. Bon, donc, le problème ne s'est pas posé pour moi, donc ça allait tout seul. J'ai repris mes activités. Mais je m'étais bien dit pendant toute la durée de la guerre que le jour où les Algériens auraient leur indépendance, c'était à eux de savoir ce qu'ils en feraient et que ça ne nous regarderait plus. Alors, disons que je suis resté très, très respectueux par rapport à ça. Et simplement, j'ai accepté avec un grand plaisir quand, en 1966, j'ai été invité une première fois là-bas. Là-bas, c'est-à-dire ici, mais je parle comme si j'étais encore à l'époque où j'ai été invité. Bon, et par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Bouteflika, et j'ai donc passé 8 jours là avec ma seconde femme. Et 3 ans plus tard, en 69, j'ai été invité par Ben Yahia. Et ça, c'était au moment du festival culturel panafricain qui a été pour moi un émerveillement. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, voir Alger aux prises avec cet événement. Vraiment, ça valait la peine. Bon, et puis par la suite, eh bien, je suis revenu en 74 pour faire un film d'entretien avec le président Boumediene. Et peu après, on m'a demandé si ça m'intéresserait d'animer un séminaire sur des problèmes qui se posaient déjà très fortement, problèmes de désadaptation psychosociale en milieu urbain, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive aux gens qui viennent de la campagne et qui vont à la ville parce qu'ils sont persuadés que ça va se passer mieux pour eux, et qui se trouvent dans un univers d'un jour à l'autre complètement différent, et quitte à vraiment à en avoir des troubles, subir des troubles considérables. Alors on avait étudié ça avec une équipe multiple de psychiatres, de psychologues, de sociologues. Bon. Et j'ai animé ce séminaire pendant près de 3 ans, à raison de 5 jours par mois, où je venais en Algérie régulièrement. Ça a été un moment tout à fait passionnant pour moi.
Et votre rencontre avec le président Boumediene, c'était aussi quelque chose d'inattendu, ou comment ça s'est passé pour vous?
Ah, inattendu, c'est bien moi qui l'ai cherché, puisque j'avais proposé de faire un film. Mais ça a été un moment très important, parce que vraiment, c'est un homme d'une stature assez, assez exceptionnelle, et je dois dire que j'ai été passionné. Bon, je n'étais pas algérien, je ne suis toujours pas, et je n'ai pas à juger le président Boumediene par rapport à la politique intérieure du pays. Mais enfin, je veux dire que vraiment, j'ai été saisi par la carrure de cette personnalité.
Et... Non, pardon, je vais insister là-dessus, ce n'était pas inattendu, puisque c'est vous qui vouliez le voir. Mais le président Boumediene était difficilement accessible et c'était un homme qui ne voulait pas se montrer. Et vous avez pu, vous, faire un film sur lui. C'est pour ça que j'ai dit, inattendu peut-être pour l'ambassadeur.
Oui, ça c'est vrai que quand j'ai fait cette proposition à l'ambassade de l'ambassade d'Algérie à Paris, l'ambassadeur m'a dit, mais écoutez, c'est extraordinaire parce que ça fait des années que je demande à mon président de faire un effort et d'accepter de se montrer un peu, de laisser connaître un peu sa personnalité. Et il refuse systématiquement, Il m'a montré le dossier de tous les refus à toutes les télévisions qui s'étaient adressées à lui pour ça. Et il m'a dit, mais maintenant que vous me le proposez, alors je suis tranquille, il va accepter. Il va accepter. De fait, il a accepté. Et d'ailleurs, après, quelques mois plus tard, j'ai eu la possibilité d'avoir 4 heures d'entretien avec lui, enregistré, alors que j'ai enregistré sur magnétophone, quoi. Et qui sont tout à fait passionnantes, mais que j'ai pas. Si j'en ai donné quelques petits extraits dans mon dernier livre.
Francis Johnson, la question que je vais poser, la relation avec l'Algérie, elle est sentimentale, puisque vous venez de publier un livre paru en 1991, Algérie, de retour en retour.
Oui, de retour en retour, parce qu'en effet, quand mon éditeur m'a demandé de faire un livre sur l'actualité algérienne, d'abord ça m'a beaucoup passionné d'emblée, ça m'a excité, je dois dire, parce que on me demande assez souvent de parler du passé, mais j'ai pas tellement de goût pour ça. J'ai toujours l'impression qu'on me paralyse, qu'on m'empêche, qu'on me tire en arrière. Je préfère parler de l'Algérie au présent, bien sûr. Et puis c'est toujours extraordinaire de découvrir ce monde algérien, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Mais bon, c'était pas. J'ai dû revenir à plusieurs reprises pour faire ce livre, mais c'était pas mes premiers retours, évidemment. Donc j'ai appelé ça Algérie de retour en retour, parce que c'était une vieille histoire entre l'Algérie et moi, d'une certaine manière. C'est vrai. Une histoire, oui, vous avez raison, c'est une histoire sentimentale. Oui, c'est les deux. C'est les deux. C'est une chose que j'essayais d'expliquer hier, c'est que ça m'a pris aux tripes au départ, hein, à cause du fait que j'étais citoyen français et que la France menait en Algérie une politique inacceptable, mais aussi parce que c'est vrai que j'ai été pris d'une très vive sympathie pour la population que j'ai rencontrée à ce moment-là. Et ça n'a pas cessé, et ça s'est toujours confirmé à chacun de mes retours. Mais en même temps, c'est qu'aussi, mon engagement dans ce domaine, aux côtés de l'Algérie, enfin, ça a été un engagement très raisonné aussi. Je veux dire, je l'ai écrit, j'ai analysé à maintes reprises. Et donc, ce n'est pas uniquement un élan comme ça, hein. Et en même temps, c'est resté toujours quelque chose de l'ordre d'une espèce d'amour. Oui, c'est vrai. Oui.
Monsieur Francis Johnson, que pensez-vous de la situation politique en Algérie?
Ah, la situation politique en Algérie, bon, vous savez, ça me gêne toujours beaucoup d'avoir à exprimer une opinion à cet égard, parce que c'est évidemment pas mon rôle.
Vous qui avez une relation très sentimentale avec l'Algérie, on aimerait bien la connaître.
Non, moi je suis tout à fait d'accord avec les décisions qui ont été prises en janvier dernier, parce que je pense que le danger islamiste était considérable, il était total, et que bon, il aurait mieux valu ne pas le laisser prendre les proportions qu'il a prises, ça c'est certain, mais enfin, ce n'était pas une raison pour le laisser aller jusqu'au bout. Il fallait bien qu'à un moment, ça s'arrête. C'est arrêté un peu plus tard qu'il aurait fallu, mais ça s'est arrêté, et ça, c'est bien. C'est bien. Le reste, ce n'est pas facile, hein. Tout reste à faire, d'une certaine manière.
Est-ce que vous suivez de près toujours la politique algérienne de votre ville?
Oh oui, je la suis de près. La seule chose que je regrette dans cette affaire, c'est qu'il soit si difficile d'obtenir même de mes amis algériens qu'ils m'envoient régulièrement des journaux d'ici. Alors je suis à partir de la presse française. Vous savez, j'ai appris à lire la presse française entre les lignes. C'est une vieille expérience que j'ai, enfin un vieil entraînement. Et ça marche assez bien. En gros, j'y arrive à peu près. Mais enfin, je préférerais de temps à autre. Alors, je ne sais pas si je pouvais lancer un appel comme ça pour qu'on m'alimente en journaux algériens. Ça m'arrangerait bien d'être entendu. Mais bon, voilà. Non, je suis beaucoup. Et je vous ferai un aveu. Ça m'intéresse tellement d'être tout à fait dans le coup que je garde des coupures de journaux tous les jours sur tous les aspects de la politique algérienne et des articles de revue et des choses comme ça, bien sûr. Oui, je la suis de très près.
En parlant d'amis et d'amitié, est-ce que vous avez toujours gardé les amis de la Fédération de France, c'est-à-dire d'il y a 40 ans? Est-ce que vous avez toujours les contacts? Est-ce qu'il vous arrive de vous voir?
Oui, bien sûr. Et avec un grand bonheur. Oui, ça arrive toujours, oui, certainement. Et puis, évidemment, bon, il y en a qui sont actuellement à des postes importants. Alors, mais ça ne les empêche pas de m'accueillir quand même, je veux dire. Bon, nous nous voyons aussi beaucoup, oui, quand même. Oui.
Peut-être une question piège, hein, Monsieur Francis Janson. Si je vous demandais de décrire un Algérien.
Oh non, ne me faites pas ça. De décrire un Algérien. Ah non, non, alors je vous dirais, non, la seule chose que je puisse dire, c'est que je n'en reviens toujours pas de la capacité d'humour de cette population, de la façon dont elle sait se débrouiller avec les pires problèmes, à la fois tourner autour, les grignoter, les ridiculiser parfois, enfin, s'en débrouiller de mieux en mieux et sans jamais vraiment faire de drame. Il y a là une ressource. Moi, je suis frappé par le potentiel humain qu'il y a dans cette population. La ressource prodigieuse, je pense que c'est ce qui lui permettra de s'en sortir, quelles que soient les difficultés auxquelles il est aujourd'hui affronté et qui sont démesurés, enfin, d'une certaine manière. Mais je crois qu'elle est démesurée aussi, cette population. Elle est capable. Elle est capable d'affronter ça.
Ce n'est pas lié au fatalisme, non?
Oh, alors là, je ne vois pas comment on pourrait assimiler l'attitude algérienne à un fatalisme. Ça, je n'ai jamais ressenti ça.
Monsieur Francis Janson, peut-être on va terminer sur le réseau Janson, bien que... comment ont été pour vous ces années-là? Des années de pénibles ou des plus belles années de votre vie? Je crois pas, mais enfin, je vous pose quand même.
Ah, écoutez, honnêtement, il faut que je dise que ça a été passionnant, ce travail. Passionnant, et puis c'était extraordinaire de le faire avec des gens qui tous étaient réellement, sincèrement engagés. Puis on avait tous cette idée que quand même on luttait pour quelque chose de valable, même si, comme dans toute lutte, il y a évidemment du relatif. Hein. Mais quand même, en gros, oui, nous étions assez convaincus de faire un travail valable. Et donc ça fait beaucoup de bien, ça aide beaucoup dans l'action. Et simplement, ce que je dirais, c'est que nous avons poussé un grand soupir de soulagement quand ça a été terminé, parce que nous avions peur vraiment de commettre des erreurs, comme je vous le disais. Nous avions peur que ça coûte trop cher aux Algériens. Nous étions censés leur apporter une aide et nous risquions de les précipiter dans une catastrophe.
Francis Janson, vous parlez de psychiatrie, ça n'a jamais été votre domaine, et je vois que la psychiatrie au tournant, vous écrivez donc un livre et vous vous occupez des malades mentaux, c'est ça? Est-ce que c'est pour vous approcher plus de l'homme?
J'ai même commis deux livres depuis que je travaille en psychiatrie, c'est-à-dire en gros depuis 1975. Oui, j'ai été propulsé dans le champ psychiatrique par un psychiatre qui un jour a voulu que je vienne voir dans son service commence à fonctionner, puis que je réagisse à ma façon. Il avait envie d'un regard extérieur sur sa propre activité, celle de son équipe. Et ça m'a passionné. Et depuis, je me suis mis à faire en effet des séminaires pour les psychiatres en formation, et puis des stages de formation continue pour les personnels psychiatriques de toute catégorie. Et c'est vrai que j'ai rencontré là, dans le champ psychiatrique, tous les problèmes que je me posais précédemment sur le plan, si vous voulez, des relations de personne à personne, des relations entre les groupes, ou des relations de la personne à elle-même. Hein. Tous ces problèmes-là, je les ai rencontrés en psychiatrie avec un fort grossissement. Et c'est très, très intéressant. Et puis, vraiment, il m'est apparu qu'il y avait un problème qui se posait là comme ailleurs, c'est que le malade mental n'est pas, trop souvent n'est pas reconnu en tant que personne. Donc, il y a là un travail à faire pour que les psychiatres ou les infirmiers psychiatriques se préoccupent d'avoir affaire à un sujet, à une personne à part entière, bon, même si cette personne est en difficulté lorsqu'ils ont affaire à elle. Et puis, je me suis aperçu aussi qu'il en allait de même un peu pour les infirmiers, par exemple, qui n'étaient pas reconnus comme travailleurs de la psychiatrie à part entière par certains médecins, qui considèrent les infirmiers comme des exécutants et qui n'aiment pas que les infirmiers prennent des initiatives et des responsabilités propres. Et au fond, qui disent, nous sommes par exemple psychothérapeutes, mais les infirmiers ne peuvent pas l'être. Alors je regrette, mais si on travaille en psychiatrie, c'est bien pour être thérapeute du psychisme. Bon, donc c'est là je m'efforce d'aider les infirmiers à accéder à un statut personnel qui soit vraiment celui de travailleur responsable.
Aujourd'hui, comment vous vous sentez, Monsieur Francis Janson? Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes un homme heureux? Est-ce que il y a des choses qui vous perturbent encore?
Il est toujours très dangereux de dire qu'on est heureux. Il y a quelqu'un qui disait, il faut jamais le dire avant le dernier instant qui précède la mort. Mais je crois que j'ai quand même envie de le dire. Et qu'en tout cas, je suis très conscient d'avoir eu toujours énormément de chance, puisque j'ai toujours pu faire des choses qui me passionnaient.
En tout cas, nous, les auditeurs, avons eu la chance de vous avoir ce soir. En espérant vous revoir très bientôt, nous vous remercions vivement d'être venu donc ce soir à notre émission. Merci, M. Francis Janson.
Portrait présenté par Mélie Calafaire.